Chapitre 16. La maison endeuillée. Partie 1. Dans la cuisine du 12 Square Grimore, Cygnus Black fixait la cheminée, réfléchissant intensément. Orion était parti depuis plus d'une heure pour le manoir des Malfoy, et à chaque minute qui passait, ses chances de revoir son beau-frère vivant s'amenuisaient. Quelques étages plus haut, il n'entendait plus rien. Walburga avait sans doute réussi à apaiser l'affolement désespéré de créatures. Sa pauvre sœur. Elle aurait mieux fait de l'écouter, lui, plutôt que de céder aux fantasmes de puissance de son mari. Régulus n'aurait jamais dû rejoindre les Mangemorts. Cygnus leur avait répété à de nombreuses reprises, mais Orion n'en avait fait qu'à sa tête. Quel gâchis! Comme chaque fois que quelque chose le contrariait, Cygnus interrompit ses ruminations désagréables pour aller se réfugier dans ses vieux souvenirs. C'était une habitude qu'il avait prise au moment de son renvoi du Magen Mago. Incapable de faire face à sa propre déchéance, il avait décidé de fuir la réalité et depuis, il passait le plus clair de son temps à se remémorer une époque lointaine, où il était admiré et respecté. Quelques jours plus tôt, par exemple, lorsque Créature avait frôlé la mort et avait été soignée par Vera, Cygnus était tellement absorbé dans ses rêveries qu'il avait à peine entendu le remue-ménage qui avait agité la maison. Et voilà qu'il replongeait, refusant de voir le reflet que lui renvoyaient toutes les casseroles en cuivre. Incapable d'accepter ce qu'il était devenu, un vieil homme fatigué, à la barbe grisonnante, dépossédé de toute sa gloire, oublié de tous. « Bon sang !» se reprit-il donc intérieurement, comme il le faisait plusieurs fois par jour. « Non, il ne pouvait pas en être ainsi. Il était Cygnus Black, que diable ! Le ténor du Magen Mago, plein d'ardeur et de panache. Tout le monde guettait son entrée, tremblait sur son passage, se taisait pour écouter sa voix de tonnerre. Cygnus embrassa du regard l'ensemble de la pièce, un peu rasséréné. Il pouvait compter sur cette maison pour lui rappeler sa valeur. Depuis sa naissance, il était le fils aîné, le favori, l'enfant prodige. À l'époque, il occupait la chambre de Sirius, bien sûr. Alphard, celle de Régulus, et Walburga s'étaient vus attribuer une toute petite chambre à l'étage inférieur. Cygnus sourit en repensant à la révolte légitime, mais impuissante, de sa sœur cadette lorsqu'elle voyait ses deux frères se prélasser dans leur grand lit à baldaquin. Comme cette époque lui manquait. Ils lisaient souvent ici, tous les trois, auprès du feu, pendant que leurs parents donnaient de somptueuses réceptions dans le grand salon. Alphard était très paresseux. Pour éviter de lire par lui-même, et il prétendait que les lettres se mélangeaient sous ses yeux, alors Walburga l'aidait, très patiemment, même si Cygnus s'agaçait, car il s'agissait évidemment d'une ruse pour obtenir leur attention et fournir moins d'efforts. Tout était si simple à l'époque. La famille Black était tout ce qui comptait. La trahir, c'était se trahir soi-même. Ils étaient tous les trois absolument indissociables de cette maison et du rôle qu'on leur y avait attribué. Alphard était l'idiot dont tout le monde aimait se moquer. Walburga, la fille, dont le destin se résumait au mariage. Et Cygnus ? Cygnus nourrissait toutes les espérances de ses parents, toutes leurs ambitions, toutes leurs vantardises. Tous deux étaient si fiers de lui. Il ne se passait pas une journée sans qu'ils se vantent des exploits de leur fils aîné, sous le regard envieux, mais résigné, de Walburga. À cette époque, tout le monde les respectait, bien plus qu'aujourd'hui, Dans la rue, il arrivait parfois que des inconnus veuillent prendre Cygnus en photo ou lui offrir un présent. À Poudlard, les professeurs poussaient une exclamation impressionnée en voyant le blason des Blacks brodé sur sa cape. Ah, comme Cygnus regrettait le passé. La réussite lui pleuvait dessus sans qu'il n'ait rien à faire. Puis les choses avaient changé. Et il ne trouvait pas sa place dans ce nouveau monde. Était-ce si mal? Comme pour le rappeler douloureusement dans le présent, le feu qui se trouvait dans la cheminée se mit à crépiter intensément. Quelqu'un arrivait par la voie des cheminettes. Serait-ce Orion ou même Régulus? Hélas, non. C'était Narcissa qui venait d'entrer. Elle chancelait un peu et était si pâle que l'espace d'un instant, Cygnus crut voir le fantôme de sa défunte épouse. Il se raidit comme chaque fois qu'il se trouvait face à elle, car Narcissa, même si elle n'en savait rien, était la preuve vivante que Cygnus avait subi une autre humiliation cuisante au cours de sa vie. Une humiliation qui n'avait rien à voir avec sa brillante carrière. Si elle savait, songea Cygnus, par Merlin, si Narcissa apprenait tout cela. Sitôt atterri dans la cheminée du 12 Square Grimoire, une odeur de chair brûlée lui saisit les narines et Narcissa regretta immédiatement d'être venue. Elle baissa néanmoins la tête pour sortir de la cheminée et se retrouva face à son père, assis à la table de la cuisine.
« Te voilà !»
dit simplement Cygnus Black. Il portait une robe de chambre noire, brodé de fils d'argent. Narcissa ne l'avait pratiquement pas vu depuis son mariage, soit 6 ans auparavant. Il avait alors refusé la proposition qu'elle lui avait faite, celle d'emménager avec elle au manoir des Malfoy. Et depuis, il se murait au 12 Square Grimoire, où sa seule activité consistait à lire la Gazette du Sorcier et à se comporter comme s'il était encore un membre éminent du Magène Mago. Évidemment, Narcissa tenait ses informations de Bellatrix et de Régulus, car les quelques lettres qu'elle avait adressées à son père étaient restées sans réponse. Son père avait vieilli, ses traits étaient plus marqués et ses cheveux noirs grisonnaient par endroits. Et pourtant, il avait gardé la prestance et l'imposante carrure que Narcissa avait tant admirée.
« Tu as maigri !»
ajouta Cygnus. Narcissa baissa les yeux.
C'est drôle. En te voyant apparaître pendant un court instant, j'ai cru voir ta mère.
Narcissa ne sut que répondre. Venant de son père, il était impossible de savoir si cette remarque relevait du compliment ou du reproche. Vous n'avez pas répondu à mes lettres, fit remarquer Narcissa.
C'est vrai.
Admit Cygnus.
J'étais sans doute trop occupé.
Tous deux se regardaient comme deux étrangers, comme s'ils n'avaient jamais partagé le même toit, comme s'ils n'avaient aucun lien de parenté. Exactement ce qu'Orion prétendait, en réalité. À cette pensée, Narcissa se sentit de nouveau faiblir. Dans le reflet d'une casserole en cuivre, elle croisa son propre regard et la voix nasillarde de son oncle Orion la rattrapa aussitôt.
Elle ne ressemble pas vraiment à son père, n'est-ce pas?
Narcissa voulut faire taire cette petite voix intérieure. Mais elle résonna de plus belle.
Thomas Everly était blond, un sang de bourbe, de la pire espèce. Et il avait les yeux bleus, bien sûr.
Comment oublier ce regard limpide et ses longs cils dorés? Exactement comme Narcissa, en fait.
Je suppose que c'est lui qui t'envoie ?
Demanda encore Cygnus. Narcissa acquiesça faiblement. Elle savait que son père faisait référence au Seigneur des Ténèbres. Elle savait aussi qu'il désapprouvait ses méthodes et qu'il avait vu d'un mauvais œil le fait que Régulus soit introduit au sein des Mangemorts.
« Ils sont morts tous les deux, n'est-ce pas ?»
demanda enfin Cygnus. Narcissa ferma les yeux pour acquiescer. En face d'elle, son père poussa un long soupir et secoua la tête avec abattement.
« Je m'en doutais. Ce pauvre créature et ma pauvre sœur. Elle qui attendait avec impatience d'être débarrassée d'Orion, il aura fallu que son fils soit enlevé avec lui. Régulus, si brillant, si jeune. Ah, ma pauvre sœur !»
répéta-t'il. Narcissa était toujours debout, sans que son père ne lui ait proposé de s'asseoir ou même demandé de ses nouvelles. Sur ses épaules, sa cape pesait de plus en plus lourd. Elle réalisait progressivement que l'une des raisons qui l'avait poussée à venir au square Grimor était le besoin de revoir son père. Et l'espoir qu'il lui manifeste, enfin, un peu d'affection. Mais il lui apparaissait maintenant évident que cet espoir-là était vain, comme il l'avait toujours été. Narcissa déglutit avec difficulté. La question lui brûlait les lèvres, aussi simple qu'insurmontable.
« Papa, êtes-vous vraiment mon papa ?»«
Où est Walburga ?» demanda-t-elle dans l'espoir de chasser cette idée absurde de son esprit.
« Laisse donc ta tante se reposer, » dit Cygnus avec sévérité. « Son cœur doit être bien en peine. »
Laisse donc ta tante se reposer. Était-ce vraiment son père qui avait parlé? Ce même homme qui, dans cette même maison, avait laissé sa mère dépérir et ce, sans jamais intervenir auprès d'Orion ou de Walburga, pour que ces deux êtres ignobles la laissent se reposer, elle qui ne demandait que ça.
J'ignorais que notre tante avait un cœur, répliqua Narcissa,
qui avait de plus en plus de mal à parler de façon distincte. Face à elle, au contraire, Cygnus Black ne montrait pas le moindre signe de tristesse, d'angoisse ou de colère. Il se contentait d'observer en silence, muré dans de mystérieuses réflexions. Narcissa ne pouvait pas en supporter davantage. Elle rassembla ses forces, inspira profondément pour refouler la nausée qui montait en elle et s'enfuit dans la cage d'escalier, laissant son père avec ses vieux souvenirs. Elle monta les premières marches à toute vitesse, mais dut très vite ralentir l'allure. L'atmosphère de la maison semblait lui coller à la peau, épaisse, chargée de souvenirs venimeux. Tout en se cramponnant à la rampe d'escalier, Narcissa dut s'efforcer de ne pas voir la silhouette de sa mère et le visage rieur d'Andromeda qui flottait pourtant devant ses yeux. Elle poursuivit son ascension, de plus en plus triste, de plus en plus lourde, avec l'impression de progresser à travers un brouillard formé de fantômes. Et c'est au premier étage qu'elle le sentit. La même présence, atrocement avide et vorace, que celle qui habitait l'objet dissimulé dans l'aile est du manoir, à la demande de Voldemort, et les mêmes filaments invisibles qui tentaient à tout prix de l'atteindre. Il y avait donc ici un autre objet habité par la même noirceur et par la même monstruosité. Narcissa n'osa pas s'approcher davantage, de peur d'être de nouveau happée par ce typhon obscur. Elle passa le plus loin possible de la porte du salon et s'enfuit à nouveau vers les étages supérieurs, tournant le dos à la chambre qu'elle avait longtemps partagée avec ses sœurs. Dans les escaliers, elle baissa les yeux pour ne pas voir la chambre où sa mère avait vécu et atteignit le dernier étage à bout de souffle. Là, ses pas la guidèrent automatiquement vers la chambre de Sirius. C'était là qu'elle se réfugiait souvent, à l'âge de 9 ans, pour esquiver les remontrances désagréables de sa tante Walburga. Sitôt entrée dans la chambre, les souvenirs l'assaillirent de nouveau.
Rien n'avait changé. 4 ans après le départ de son cousin, son aura provocatrice imprégnait toujours les murs, qui étaient couverts de posters de motos, de photos de jolis moldus et de banderoles aux couleurs de Gryffondor. Narcissa fut étonnée que Walburga ait laissé la chambre intacte. Tout était d'ailleurs singulièrement propre pour une chambre inhabitée. Même le petit lustre en cristal, au plafond, avait été méticuleusement dépoussiéré. Narcissa se rendit instinctivement devant la grande armoire en bois sculpté, qui était bien plus petite que dans ses souvenirs. Pensivement, elle passa la main le long du cadre en bas-relief. Combien de fois était-elle venue en extraire Sirius lorsqu'ils étaient petits? Elle le réprimandait alors gentiment, et son petit cousin sortait en ronchonnant contre leur gouverneur acariâtre et ses maudites leçons de bienséance. Narcissa se souvenait encore de son sourire mutin et de ses boucles noires en bataille lorsqu'elle ouvrait la porte et qu'elle le découvrait dissimulé sous les vêtements. Elle secoua la tête pour interrompre le fil de ses pensées. Sirius se moquerait sans doute d'elle s'il la surprenait dans cet élan de nostalgie. Depuis bien longtemps, son cousin ne ressentait pour eux que du mépris et de la répugnance, y compris pour son propre frère. Avec amertume, elle songea que Sirius ne serait certainement pas aussi touché qu'elle par la mort de Régulus. Il était même probable qu'il s'en réjouisse, qu'il déclare que son petit frère l'avait bien cherché. Cette triste pensée lui rappela ce qui l'avait amené dans cette maudite maison, et elle sortit de la chambre pour se mettre à la recherche de créatures. Sur le palier, elle tendit l'oreille. De discrets gémissements provenaient de la chambre d'Orion et Walburga. Son cœur se serra lorsqu'elle passa devant la chambre de Régulus, apercevant au passage le bureau recouvert d'articles relatifs à la puissance mystérieuse de Lord Voldemort et le panneau sur sa porte qui défendait à quiconque d'entrer, sans l'autorisation expresse, de Régulus, Arcturus, Black. Autorisation qu'il ne pourrait plus jamais accorder, songea tristement Narcissa. Avec une grande lassitude, elle poussa la porte de la chambre parentale. Contrairement à la chambre de Sirius, qui était restée figée et intacte, cette pièce-là semblait s'être flétrie avec les années. Sur les grandes tapisseries qui couvraient les murs, les fils d'argent qui dessinaient le blason de la famille Black avaient nettement perdu de leur éclat. Le cadre en bois du grand lit à baldaquin s'était terni, les édredons moelleux s'étaient affaissés. Sur le lit, la tante Walburga était assise, droite comme un i, les cheveux défaits. Elle regardait Créature qui était allongée sur les édredons brodés. C'était lui qui gémissait faiblement au rythme de sa respiration saccadée.
« J'ai été obligé de l'endormir, »
déclara Walburga sans même regarder Narcissa.
« Autrement, je crois qu'il se serait jeté par la fenêtre. »
Narcissa resta sur le pas de la porte, hésitante. Avec ses éclats de colère imprévisibles, sa tante lui avait appris à se méfier.
« J'ai entendu ta conversation avec ton père, »
l'informa Walburga.
« Je me doutais bien qu'ils étaient morts. Si Régulus était encore en vie, jamais Créature ne se serait fait autant de mal. Quant à Orion, j'ai tenté de le dissuader de vous rendre visite, mais il n'a pas voulu entendre raison. Cet imbécile ne peut s'en prendre qu'à lui-même. »
Narcissa fut glacée par la froideur terrifiante avec laquelle Walburga venait de s'exprimer alors qu'il s'agissait de la mort de son mari et surtout de son fils. Malgré elle, Narcissa avait espéré la voir effondrée et désespérée, mais elle devait bien se rendre à l'évidence. Sa tante faisait preuve d'une maîtrise d'elle-même impressionnante et toujours aussi intimidante.
« Je suis venu pour savoir ce qui est arrivé à Reggie, » déclara Narcissa. « Je cherche Encore ce surnom, idiot !»
siffla Walburga. Narcissa déglutit avec difficulté. Elle avait l'impression, extrêmement désagréable, de redevenir la petite fille effrayée et obéissante qu'elle avait été, des années auparavant, alors qu'elle supportait au quotidien les ordres tyranniques de sa tante. Luttant contre ce sentiment, elle dut se faire violence pour insister.
« Je cherche des indices. Je voudrais savoir pourquoi il est... »
À nouveau, elle ne parvint pas à achever sa phrase.
« Orion a parlé d'une lettre, »
reprit-elle.
« Une lettre pour Dumbledore. J'aimerais la voir. Peut-être que Lucius pourrait trouver un moyen de l'ouvrir. »
« Si tu crois que je vais te donner le seul indice concernant la mort de mon fils, tu te trompes !» coupa sèchement Walburga.
« Sa fuite est un mystère, et elle le restera !»
Narcissa prit une profonde inspiration. Son père l'avait déçu, et sa tante ne lui donnerait aucune information sur la disparition de Régulus. Il ne lui restait plus qu'à s'en aller. Et pourtant, elle ne parvenait pas à s'y résoudre. Quelque chose d'autre la retenait dans cette maison, même si elle ne parvenait pas à déterminer de quoi il s'agissait. Elle obtint sa réponse en apercevant plusieurs articles de journaux sur l'écritoire de Walburga, dont quelques-uns étaient illustrés par des photographies de sorcières portant des nouveau-nés dans leurs bras. Narcissa s'en approcha et fronça les sourcils en les parcourant du regard.
« Régulus avait laissé ses articles sur son bureau, »
se moqua Walburga.
« J'imagine que c'est à toi qu'ils sont adressés. »
Narcissa examina fébrilement l'ensemble des articles, mais ils étaient tous unanimes. Si la magie n'avait été d'aucune aide pour ces couples de sorciers qui désespéraient d'avoir des enfants, c'était en se tournant vers les moldus qu'ils avaient enfin trouvé une explication et une solution. Refusant de croire une telle absurdité, Narcissa les froissa entre ses mains et les jeta sur le sol, furieuse.
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ces articles disent la vérité,
l'informa Walburga.
Les moldus sont tellement déterminés à se multiplier comme des parasites, qu'ils ont acquis des compétences stupéfiantes sur ce sujet. Ainsi, si tu étais une femme moldue et que tu avais eu accès à leurs connaissances et à leur savoir-faire, ils auraient très rapidement trouvé la cause de ton malheur et tu aurais probablement déjà donné naissance à une ribambelle d'enfants. « Vous mentez !» coupa Narcissa.
Elle avait l'impression que Walburga lui avait planté un poignard dans le ventre en prononçant ces mots. Et sa tante dut deviner sa détresse, car elle poursuivit avec un sourire cruel.
« C'est drôle tout de même que ça t'arrive à toi qui n'attends que ça. Pour ma part, c'est l'inverse qui s'est produit lorsqu'il fut clair que Cygnus n'aurait pas de fils et que j'ai dû me résigner à remplir ce devoir qui me répugnait tant. Sirius est arrivé tout de suite, et bien trop vite à mon goût. »